Tout feu, tout femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Bonjour à tous, comme vous le savez déjà, l'émission Tout feu, tout femme aime accueillir des invités qui ont des parcours particuliers, que ce soit des femmes ou des hommes. Ce mois-ci, nous recevons donc un homme, Jérôme Bequin, dont nous dresserons le portrait tout au long de cette émission. Cette émission est la sienne, il nous présentera ses choix musicaux, ses livres préférés, ses coups de cœur, ses coups de gueule, avec peut-être un petit billet d'humeur autour de l'actualité qui est riche en cette rentrée. Et puis nous l'espérons, il nous donnera une recette en fin d'émission, puisque désormais Jérôme Bequin est en cuisine avec un nouveau concept, le food truck, la cantine littéraire. Mais il nous en dira plus après cette première pause musicale. C'était donc la pause musicale choisie par Jérôme et qui va nous expliquer pourquoi.
Alors bonjour à tous. Donc pourquoi Ludovico Einaudi, un pianiste incroyable italien, révélé en France avec la bande originale du film Intouchable. J'ai eu la chance, l'opportunité de le voir en concert au Nuit de Fourvière l'année dernière. Ses albums sont un calme absolu, reposant. Et ce titre particulièrement, je suis très mauvais en italien, la prononciation I do e fiumi signifie les deux rivières. Et j'avoue que c'est, on les ressent, on les voit en les écoutant. En écoutant ce titre-là, on imagine ces deux rivières s'entrelaçant. Et je trouve que c'est une belle, belle musique d'amour.
Alors, ce qui était étonnant, c'est que c'est le film Intouchable et vous nous dites ne pas l'avoir vu. Alors là, c'est pareil, vous faites travailler votre imaginaire,
et oui,
comme dans les livres.
Oui, exactement. C'est un gros travail d'imagination. Et c'est vrai qu'Intouchable, je dois faire partie des personnes, des deux ou trois personnes en France qui ne l'ont pas vu. Non, je ne sais
c'est
pas.
C'est très dommage, Jérôme, parce que c'était un très beau film.
Par contre, je connais la bande originale par cœur. Voilà, je suis très musique de film depuis toujours et j'aurai le plaisir de vous en faire écouter d'autres tout à l'heure, d'ailleurs.
Il y a de très très belles musiques de films. Alors, pour m'accompagner tout au long de cette émission, Valérie Guivic, qui va m'aider à passer au gris, notre invitée.
Les torsionnaires, alors, les deux femmes torsionnaires de Couleur FM.
Jérôme Bequin, vous êtes notre invité, mais qui êtes-vous? Vous vous engagez dans plusieurs grandes causes. Voilà, oui. Expliquez-nous qui vous êtes, d'où vous venez et quel est votre parcours.
Qui je suis? Mais alors...
Grande question.
Grande question, hein, c'est un grand domaine. Je remonte à tout petit, non? Quand j'étais petit. Non, parce que j'ai déjà 42 ans, donc ça peut faire long. Arrivé sur Bourgoin dans les années 80-96, j'ai eu travaillé dans 2-3 commerces sur Bourgoin-Jallieu, notamment une librairie. J'ai créé ma propre librairie pour mes 30 ans avec un ami. Auparavant, j'avais été aussi fonctionnaire pour la ville de Bourgoin-Jallieu, au musée de Bourgoin, agent du patrimoine. J'ai eu la chance aussi de travailler pour une très très belle expo consacrée à Madame Gray.
Ah oui, je l'ai vu.
Je suis parti après cette exposition. L'apothéose, j'ai trouvé à ce moment-là une opportunité incroyable d'exposer ces robes de Madame Gray. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai pas de métier fixe, en fait, c'est ça qui m'amène. J'ai un parcours complètement atypique. J'ai passé un bac d'art plastique. L'art me guide depuis très longtemps. La lecture, les relations humaines, aller vers l'autre, etc. Je me suis trouvé dans le commerce à plusieurs reprises, aussi bien dans le vêtement que donc le livre, la culture. J'ai travaillé dans des médiathèques aussi, dans un centre aéré encore récemment. Et depuis peu, j'ai repris le chemin du commerce en créant la cantine littéraire.
Ce dont on parlera après la prochaine pause musicale. Alors justement, vous parlez de votre engagement aussi pour aller vers l'autre. Alors je vous ai vu apparaître notamment dans les derniers événements en date, la mucoviscidose, où vous avez participé. Alors est-ce que c'est important ça aussi d'aller aider à des causes?
C'est important, il y a des choses qui sont évidentes à un moment. Je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé sur le tard dans ce bénévolat. Le bénévolat, c'est pareil, c'est un mot incroyable. Et ça fait 3 ans que je participe au Virage de l'Espoir. J'avais dans mon entourage une amie avec qui j'étais au lycée. Sa fille souffre de la mucoviscidose. Après, je m'aperçois que je suis entouré de personnes qui ont un lien avec la mucoviscidose. Et soutenir cette cause une fois par an, enfin, c'est pas qu'une fois par an, c'est des réunions, de l'organisation, etc. Vraiment, un réel plaisir, un réel bonheur. C'est une journée de fête en plus. On ne faut pas voir le bénévolat dans ces associations comme de la tristesse où on va parler de maladie, etc. Bien sûr, on en parle, mais avec des mots complètement légers, différents. Et c'est une grande journée de fête et j'ai un réel plaisir à participer à cette fête des Virades de l'Espoir chaque année.
Alors, vous avez choisi cette cause parce que vous connaissiez quelqu'un? Est-ce qu'il y a d'autres causes comme ça qui vous préoccupent?
Prochainement, oui, il y a aussi les Restos du Cœur, une association qui ne devrait plus avoir
n'est-ce pas
existence de nos jours.
C'est la question qu'on se pose
quand
tous.
On reprend les mots de Coluche il y a 30 ans, c'est ça?
Oui,
je pense 100 ans. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'incroyable. Par le biais de la lecture d'ailleurs, je me retrouve dans les Restos du Cœur, puisque chaque année il y a une édition d'un livre très à table qui sort. Ça fait la 3e édition cette année chez Pocket Edition, et 3e année, 13 auteurs font une nouvelle qu'ils offrent dans ce livre. et je crois qu'il coûte 5 euros, et l'intégralité des bénéfices de ce livre sont reversés au Resto du Cœur. Je trouve que c'est encore un moyen extrêmement simple de participer à une belle action, et en se faisant plaisir quand on aime lire, en tout cas.
Alors justement, on est effectivement, comme vous le dites si bien, les Restos du Cœur ne devraient plus exister, mais il y a des multitudes de causes. On est sans arrêt sollicité par de multiples associations caritatives. Il est toujours difficile de dire je vais donner plus à celle-ci qu'à celle-ci, je vais faire ça. Voilà. Comment fait-on un choix? C'est un petit peu compliqué. Ben,
le choix, alors pour le coup, moi qui suis très, très relation humaine, ça va passer par un contact, un échange, un regard, etc. Et parler de cette cause, etc. Je ne réponds jamais aux sollicitations par le courrier, ce genre de choses. Dans la boîte aux lettres, on est constamment
inondé.
Avec des objets incroyables, sans intérêt. Enfin, sans intérêt, ce genre de fonctionnement, je préfère le terrain, du coup, véritablement le terrain.
Et la véritable question, là, moi, c'est quelque chose que j'ai fait là, récemment. Quand on reçoit effectivement toutes ces sollicitations, je leur ai renvoyé un courrier en leur disant « Mais utilisez l'argent que vous dépensez dans toute cette communication » pour les causes que vous défendez, parce que moi je suis inondée de stylos, de post-it, on a tous le même problème, et je ne sais pas comment leur expliquer, comment le dire, parce que eux c'est leur campagne, mais moi j'ai décidé de donner tous les ans à telle association, j'ai pas envie d'être inondée par tous leurs papiers, je donne point barre, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose en retour.
Parce qu'ils estiment que sur le pourcentage, ils ont fait leurs études, et sur le pourcentage de personnes à qui ils envoient toute cette publicité, il y a forcément un retour qui reste conséquent
mais quand tu donnes tous les ans.
Mais oui, mais ça reste des statistiques, et sur des statistiques établies, la rentabilité, elle est de temps, si tu envoies tant de relances.
Je dois être hors statistique, c'est vrai que ce genre d'envoi
m'horripile.
Voilà. Oui, vraiment, complètement, à la benne directement.
C'est dommage parce que c'est toute la communication qui... de l'argent.
Oui.
Mais dans ce monde de communication, justement, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme, dans ce monde de communication, est-ce que trop de communication ne tue pas la communication? Et finalement, on ne sait plus vraiment... on ne comprend plus forcément les messages qu'on veut nous envoyer.
Non, c'est ça, trop d'écran, trop de... Voilà, au bout d'un moment, effectivement, l'information est noyée. La vraie information est noyée.
Alors justement, quel est votre rapport, vous, avec l'information? Comment vous renseignez-vous? Comment... fonctionnez-vous vis-à-vis de tout ce qui nous tombe tous les jours sur nos divers écrans?
Alors, je suis assez accro à l'information. Curieux de tout, vraiment. Donc, moi, c'est sur l'écran du smartphone, des alertes infos sur des sites d'infos, la télévision le matin au réveil. voilà, les flashs, non, c'est ça. Pour revenir à par exemple, l'attentat de Paris. Notamment, c'est bête, mais comment je l'ai su? Voilà, il y avait les premières infos à 10h30 qui tombaient sur les portables, une attaque à Paris, Bataclan, etc. Le matin, quand je me lève, 6h30, je regarde mon téléphone, je vois le nombre de morts, mais voilà, c'était assez...
Ça vous blindait la journée, ça?
Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que c'est troublant, mais...
En même temps, il est important d'être informé.
Ah, je trouve, complètement. Enfin, voilà, il faut ces flashs, il faut ça. Enfin, moi, je suis très... Voilà.
Vous triez comment? Parce que l'information, on sait qu'elle peut être, selon là où vous prenez vos sources, elle peut être complètement déformée.
Oui. Ben, avec les smartphones, il y a un petit geste qui était très facile, c'est vous balancer votre doigt de droite à gauche, ça veut dire que vous le supprimez. Ben voilà, après c'est un nouveau réflexe, j'ai ce doigt-là très musclé, voilà, je filtre. Il y a des mots qui m'intéressent, d'autres pas du tout, mais il y a des mots qui ne m'intéressent absolument pas.
Alors ce que je propose, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale. Alors là aussi, vous allez nous présenter pourquoi vous avez fait ce choix. C'est un choix magnifique aussi, un film aussi. Allez.
Alors, je suis fan aussi de bande originale de films, et même de films que je n'ai pas vus. Mais là, c'est Armand Amar, son album Le Premier Cri. C'était un film qui était consacré à la maternité, à la naissance dans le monde entier, les différentes façons d'accoucher. Et il y a cette musique, Née de la glace. Je me suis fait toute mon imagerie en l'écoutant. Je la trouve absolument magnifique parce que. On sent cet enfant arriver dans cette musique magnifique.
C'est un film magnifique puisqu'effectivement, comme vous le dites si bien, ce sont les naissances de tous les enfants dans le monde, les différentes manières de mettre au monde un enfant avec les différentes cultures. Et c'est vrai que c'est un film qui est saisissant et que j'encourage tout le monde à aller voir puisque on a, enfin, autour de la table, nous sommes deux mamans. Ça nous remet les idées en place certaines fois. Et puis, c'est aussi vraiment un hymne à l'amour, un hymne à la naissance que je vous invite à écouter et à la vie. C'était Armand Amar, le premier cri. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme. Et nous sommes en compagnie de Jérôme Béquin et de Valérie Guivic. Et nous faisons un portrait aujourd'hui d'une personne qui a créé un food truck, la cantine littéraire. Alors comment passe-t-on des livres à la cuisine? Est-ce le même plaisir?
Alors le plaisir est identique parce que quand on aime les livres, on aime tous les livres. Et à la maison, j'avais une collection incroyable de livres de cuisine, pas simplement pour le livre, mais parce que j'adore aussi cuisiner. Alors on a plaisir à cuisiner pour soi, pour le quotidien, pour les amis qui passent, etc. Puis au bout d'un moment, on se dit mais j'aimerais bien aussi voir ce que ça donne en réalité sur le terrain, le vrai terrain de jeu, le public, le... voilà. Donc il y a une idée qui a germé il y a 2 ans maintenant, 2 ans de ça. J'avais vu sur une plage un camion qui s'appelait le camion qui livre. Le camion qui livre, c'est édité par le livre de poche, c'est la tournée des plages, ils apportent des livres sur la plage. Voilà, je dis « waouh, mais c'est super, ça me donne j'ai envie de... » voilà. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas repartir sur cette idée-là d'itinérant. J'avais envie d'aller à la rencontre des gens et plus être sédentaire, chose que tous mes métiers avaient été sédentaires. J'avais envie d'aller à la rencontre des gens cette fois-ci. Donc, je trouve le camion qui livre très intéressant. Je dis, mais non, mais Jérôme, attends, la librairie, c'est trop compliqué. Tu gagnes pas ta vie avec la librairie. C'est compliqué. Voilà, donc il faut associer avec autre chose. Donc après, je suis allé faire un festival de food truck à Genève. Il y a 18 mois, 15 mois de ça. 60 food trucks à Genève répartis sur une allée et je dis waouh, on va faire ça, on va mélanger les livres et la nourriture. Alors après il a fallu trouver un camion atypique qui sorte de l'ordinaire, donc le fameux tube Citroën HY de 1957.
Que vous avez appelé généreusement Gédéon.
Gédéon, une réminiscence de l'enfance.
Ça rappelle les souvenirs Gédéon, Aglaé, Sidonie.
Voilà, toute cette série, ouais, toute cette imagerie de l'enfance. Baptisé par les internautes, hein, quand même, parce que ça avait été un sondage sur Facebook. Donc, baptisé Gédéon, voilà, il a 60 ans, ce camion, là, je l'ai fait aménager dans la région, et hop, c'est parti, voilà. Et après, donc, c'est un petit stock de livres que je possède, que je mets à disposition de chacun, des livres voyageurs. On prend le temps de manger, on prend le temps de feuilleter un livre, de l'emporter, de m'en apporter. On m'a amené une soixantaine de Super Picsou, donc voilà. On m'apporte des romans, on m'apporte des bandes dessinées, ce genre de choses. Et... C'est très plaisant, du coup, de mélanger ces deux plaisirs de lecture et de nourriture.
Mais alors, c'est pareil de passer de faire la cuisine chez soi, allez, je vais dire pour 4 ou pour 10 personnes, à passer à une plus grande échelle, puisque je sais que non seulement vous vous installez, alors vous allez nous dire aux différents endroits où on peut vous retrouver tout au long de la semaine, mais vous faites aussi ce qu'on appelle des soirées privatisées, où là, c'est pas 10 personnes que vous avez à table.
Oui. Oui, non, mais c'est le grand saut, en fait. Hein. C'est toujours ce petit grain de folie que je possède depuis longtemps maintenant. J'ai peur de rien. Et quand on me réserve pour 40, 50, 60 personnes, eh ben, je dis j'y vais. Je peux faire 300 verrines, 250 verrines, des desserts, et voilà, non. Non, mais c'est marrant. Quand on aime, ça peut abattre des montagnes, je trouve, vraiment.
Donc,
vraiment.
Question technique, un food truck qui fait des soirées privées avec 50 à 60 personnes, techniquement, oui. Ça se passe comment, dehors?
Oui, ça se passe bien, ça se passe dehors. Là, on profite de la belle saison. Naturellement, ouais. On a eu un très bel été indien. Ça se passe, oui, on m'appelle pour un anniversaire, un brunch, un mariage, je débarque et voilà. C'est des solutions clés en main, il n'y a pas de vaisselle.
Vous mettez dans le jardin, dans une salle, dans une grange.
Oui, à l'entrée d'un garage où les tables sont à l'intérieur. Voilà, et techniquement, voilà, j'amène les couverts, les assiettes, tout ça.
En fait, on s'adapte à chaque fois.
Oui, voilà. Ben, voilà. Disons que je ne fais pas d'offre clé en main. J'aime bien rencontrer la personne aussi. On échange qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va. Et voilà, c'est très intéressant.
Ça, c'est le food truck pour le grand nombre. Oui. Mais le food truck pour les gens qui viennent chaque midi, vous leur proposez quoi comme menu? C'est quoi ce qu'ils peuvent manger?
Alors, le principe, c'est également d'utiliser les produits du coin. Moi, donc, j'habite dans le Nord-Isère, à Sermérieux, à côté de Morestel. Je vais utiliser le pain de Vézerons, j'utilise le fromage de Sermérieux, les yaourts de Sermérieux, la viande hier sur Ambi. Donc, on utilise le produit local en faisant, je fais des burgers et des bagels. Les bagels, c'est les pains légèrement viennois, briochés, avec un trou au milieu. Des recettes de burgers qui changent tous les 15 jours. On mange un burger, deux burgers au choix, des frites maison et des desserts maison. Si je fais tout moi-même, il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas des produits frais uniquement, en fait. Ça prend un temps fou, mais c'est passionnant aussi.
Vous invitez, vous inventez vos burgers ou vous les prenez quelque part?
Oui. Ben, disons qu'il existe une foule de livres aussi sur le burger, sur la street food, et je m'adapte. En fait, le French burger, vraiment le burger à la française.
Alors moi, je vous conseille un au Saint-Marcellin, c'est pas mal.
C'est le fermier.
Et vous allez travailler après, et super pour les collègues.
Voilà. Alors où peut-on vous retrouver?
Comme j'existe seulement depuis 4 mois, il y a un programme qui n'est pas encore tout à fait définitif. Hier, j'étais en réunion avec la mairie de Trèpes, par exemple, et qui m'ont gentiment proposé de venir le mercredi soir chez eux, par exemple. Voilà, donc sur la place du village à Trèpes. Sinon, le mardi, je suis devant le lycée de Morestel, un nouvel emplacement que j'ai testé aujourd'hui. Mercredi, je suis à Morestel également. Le jeudi, je suis à Bourgoin-Jallieu, donc devant l'école Simone Veil.
D'accord.
Sur la petite esplanade. Et le vendredi, je retourne à Morestel et le samedi soir, je joue à domicile à Sermérieux, place de la mairie.
Quels sont les types de clients qui viennent vous voir?
Alors, je suis très étonné. C'est pas comme Tintin cette fois-ci. C'est vraiment une tranche d'âge 30, 40 et plus.
Est-ce que c'est dû au fait que ce soit du bio et du raisonné ou le hasard?
Le hasard.
Ou le burger, peut-être.
Le burger. Non, le burger qui sort de l'ordinaire, honnêtement, qui...
Parce que c'est fait frais.
Oui, parce que c'est tout gras, est fait maison, voilà, c'est sans, ça. Enfin, voilà. Oui. Après, c'est vraiment des produits locaux aussi. Oui. Donc après, j'étais étonné ce midi, mon premier jour devant le lycée de Morestel, de très bon accueil, très très bon accueil, vraiment.
Des jeunes?
Oui, des jeunes, bah oui, voilà. C'est ça, vraiment des lycéens qui m'ont découvert, ils m'ont dit, on ne savait pas, si on avait su, voilà. Donc ils m'ont dit, on s'est donné rendez-vous mardi prochain, et voilà.
Entre la cantine et le burger, je pense qu'ils préfèrent le burger.
Oui, je pense aussi. Peut-être, certainement.
Alors, comment êtes-vous perçu justement par les autres, je dirais concurrents, les restaurateurs, éventuellement ceux qui font du burger qui n'est pas bon du tout?
J'en ai comme client, j'en ai comme ami. Voilà, c'est un échange de bons procédés, je pense.
Après, vous n'êtes pas sur les mêmes axes, je pense, au niveau de la clientèle.
Non, puis après, moi, je vais manger dans les
sédentaires. Pas les mêmes créneaux non plus, horaires.
Non, pas les mêmes lieux. Pas les mêmes lieux. Non, c'est vrai. C'est pas la même. C'est vraiment pas le même. Pas le même terrain.
Combien de temps vous restez sur place lorsque vous faites une
J'arrive à 11h parce que je prépare sur place. En fait, j'épluche mes patates, je coupe mes patates, je coupe mes légumes, etc. Donc, j'arrive sur place en général vers 11h et je repars vers 13h30.
Voilà, donc c'est bien un créneau, oui, qui est bien court.
Oui, qui est court, voilà. Après, voilà, et puis on ne se pose pas non plus, on saute pas non plus chez moi. Hein. Donc il y a quelques tables, mais c'est pour le beau temps aussi. Mais après, en hiver, ce sera la vente à emporter uniquement.
Voilà, c'était la question que j'allais avoir. C'était que va-t-il se passer quand la fraîcheur va commencer à nous envahir?
Ben, ce sera vraiment que de la vente à emporter. Et puis la carte va être modifiée. Après, il y aura des soupes maison, ce genre de choses. Voilà, avec des emballages spéciaux pour emporter. On va modifier.
Est-ce que vous restez vraiment dans le burger et le bagel? Ou est-ce que vous envisagez éventuellement du plat à emporter,
des petites salades mélangées?
Il y a des salades mélangées déjà, en ce moment c'est... Oui, il y a des salades mélangées. Le plat cuisiné, ça implique un autre équipement. Donc moi j'ai privilégié friteuse, j'ai une crêpière aussi. Donc je peux faire des crêpes les après-midi ou quand je suis sur...
Des galettes bretonnes.
Des galettes bretonnes cet hiver aussi, oui, salées par exemple.
Je pourrais
embrayer sur les crêpes.
Alors est-ce qu'il vous arrive aussi justement d'être sollicité pour certains événements dans la région, justement pour être là? Puisqu'on voit que c'est les food trucks fleurissent aussi dans tous les festivals.
Alors pour l'instant je travaille avec l'extérieur du département. Prochainement le grand déballage de la médiathèque de Bron, samedi prochain. J'ai été sollicité. Et la semaine d'après, Villeurbanne, un festival sur place ou à emporter. Nous sommes 6 food trucks et on fait à manger avec un sous-chapiteau couvert, etc. pour le public. Après, dans le coin, Journée du patrimoine avec le musée de Bourgoin cette année. C'est tout pour le moment. Après, voilà, je suis pas...
Alors, est-ce que vous avez connaissance qu'il ça existe est-ce qu'il y a beaucoup de food trucks? Parce qu'on commence à voir, c'est vraiment un dispositif qui n'était pas très répandu en France et que maintenant que je connais la cantine littéraire, je m'aperçois que finalement, il y en a un petit peu de partout.
Oui, il y en a deux ou trois. Il y en a encore deux autres qui vont arriver début d'année prochaine. On sort du schéma classique du camion pizza. Il y a un food truck de pâtes, il y a un food truck de plats cuisinés, les routardises aussi, c'est les collègues, j'en parle. Oui, ça fleurit.
Ça a démarré notamment à Paris, hein, c'est là où ça a
commencé. Oui, avec le camion qui fume, le fameux camion qui fume.
Il y avait des soucis par rapport aux emplacements, aux autorisations, aux autres restaurateurs qui estimaient justement que c'était
une concurrence
déloyale, etc.
Oui, c'est vrai c'est problématique. L'espace public, c'est soit on se concentre uniquement sur l'espace public ou alors on fait appel aux emplacements privés. J'ai privilégié, moi, les espaces publics dans un premier temps. C'est très, très compliqué. Ça peut être très cher aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On imagine bien que ça n'est pas gratuit. Donc,
c'est pas une
concurrence déloyale, finalement, puisque vous payez votre emplacement.
Ça se paye, effectivement. Oui, ça se paye, en plus. Donc, je pense que tout le monde ne le sait pas, mais c'est vrai qu'il y a un droit de voirie à payer.
Et quelles sont les contraintes administratives? Est-ce que vous avez des contrôles d'hygiène, des choses comme ça? Des obligations?
Des obligations, c'est de l'auto-contrôle, en fait. C'est demander à un laboratoire vétérinaire de faire des prélèvements tous les 3 mois, après d'afficher l'autocollant qui stipule que nous sommes en règle d'hygiène. Après, des formations HACCP pour l'hygiène, évidemment, pour la conservation des aliments, etc. Des contraintes administratives, je dirais non. Non, il n'y a pas. Après, c'est le bon sens.
Bon sens, oui. C'est, je vais dire, c'est surtout bon du bon sens.
Voilà. Et encore que tout ce que nous faisons chez nous n'est pas adaptable dans le domaine de la restauration. Hein. Par exemple, nous, on peut facilement congeler nos steaks hachés. Si on en a trop, etc., nous, c'est strictement interdit. Il faudra avoir une chambre spécifique dédiée à ça, de refroidissement. Et voilà, donc il y a vraiment des règles. Non, c'est sur la congélation, c'est surprenant. Hein. Mais voilà.
Et puis vous pourriez donc avoir des contrôles.
Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui, bien sûr. Bah, pour l'instant, je n'ai eu que des contrôles de police pour vérifier ma responsabilité civile, mes autorisations de stationnement,
d'accord,
etc. Oui, ça se fait, voilà. Là, c'était des concurrents sédentaires qui me les ont envoyés. Voilà, trois fois déjà.
Sympa.
C'est comme ça. Donc, bah, après, c'est une bonne guerre.
Hein. C'est la loi de la joie.
Bonne guerre. Bah, pff, je trouve après, c'est la première fois, ça surprend.
C'est quand même un mauvais esprit.
Oui, hein, mais enfin, voilà, je prends vraiment ça à la rigolade. J'ai une pochette maintenant toute prête, vos papiers, hop, c'est une pochette.
Pochette surprise, bonjour.
Il y a juste à ouvrir et hop, c'est parti.
Avec une petite frite, voilà. En option.
J'espère que s'ils nous entendent, ils auront honte de leur action.
C'est des choses comme ça, oui. Bon.
Alors, ce que je vous propose, on va faire une troisième pause musicale. Alors, le choix, cette fois-ci.
Ah bah cette fois c'est Mylène Farmer. Bah pour ceux qui me connaissent un peu, moi ça fait 30 ans que je la suis, oui déjà 30 ans. Pour mes 12 ans, je l'ai découverte avec Libertine, avec ce clip sulfureux. Et bah puis ça m'a pas quitté depuis. Et...
Un éternel ado.
Oui peut-être, ouais, une moyenne.
Claque.
Non, mais
merci
ça,
pour l'invité.
Tout à fait. Non mais peut-être.
Et alors
si ça peut permettre de ne pas vieillir, ben non,
plus,
non au contraire.
Oh,
non,
ça aide puis, dans la vie d'être un peu adolescent parfois en étant
voilà,
adulte.
Qui dites-vous je suis dans le thème là. Et donc là, c'est une chanson qui s'appelle Diabolique, mon ange, une formidable collaboration avec un collectif d'artistes britanniques, le groupe Archive. Très bon moment pour moi, aussi bien en live voilà, que j'ai déjà vu un millier de fois. Voilà.
C'était Diabolique, mon ange, de Mylène Farmer. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme. Et nous sommes en compagnie de Jérôme Béquin, la cantine littéraire, et de Valérie Guivic. Alors justement, les livres, on va parler quand même un petit peu de livres avant de parler d'actualité. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez dans les lectures? Puisque nous sommes aussi dans la rentrée littéraire.
Oui, oui. Alors, je vais préciser un petit peu mes goûts littéraires. Moi, je suis un fan de polar, de thriller, français, anglais, américain. La rentrée littéraire de ce côté-là, je suis un peu léger. Je ne vais pas vous parler de la rentrée littéraire, vraiment pas. Après, moi, chaque année, je vais au Quai du Polar à Lyon. Le festival international de polar et j'ai découvert des auteurs incroyables, c'est encore cette année. Là je suis dans Olivier Norek, Code 93, c'est un ancien flic, Olivier Norek est un ancien flic de la PJ et il a écrit trois livres avec le Coste, il s'appelle le commissaire Coste . Il a été primé d'ailleurs avec son deuxième livre, Territoire, au Festival Sans d'encre des Avenirs, je crois, l'année dernière. Il était l'invité d'ailleurs, il est venu. Donc là, je commence cette trilogie avec le commandant Coste, Code 93, Territoire et Surtension.
Alors c'est particulier d'aimer ce genre.
Et pourquoi, pourquoi? Alors je suis par exemple, le thriller... J'ai découvert ça avec Maxime Chattam, quand j'ai ouvert ma librairie. Maxime Chattam, je ne le connaissais pas, une trilogie incroyable, L'âme du mal, In tenebris maleficis. Je me suis aperçu que je peux lire des horreurs, mais pas les voir. Je suis incapable de voir un film, par exemple, je crée mon imagerie en lisant, mais je suis incapable de voir un film d'horreur ou autre, du sang, etc. Et je peux lire des abominations, par contre, en meurtre ou en sévices, etc. Et je vais très bien, en général.
Merci docteur.
Je voyais des regards inquiétants par le moment de, je parlais de sévices, etc. Mais je vais très bien, vraiment.
On a peut-être un serial killer à côté de nous.
Oh, j'avais assisté à une super conférence d'ailleurs à Quai du Polar, justement, avec des auteurs pointus. Le titre, c'était « Sommes-nous tous des tueurs en série ?» Et au fur et à mesure du déroulé, nous sommes sans doute probablement tous des tueurs en série, puisque ça dépend d'un environnement... quelque chose qui va nous énerver un matin, un pneu crevé, par exemple. Ce matin, j'ai crevé un pneu. Voilà, ça m'a énervé. Et qu'est-ce qui me dit que si j'avais pas eu quelqu'un sous la main, je l'aurais pas... voilà, c'est étrange, hein. Mais il y a une programmation, l'environnement, etc., qui fait qu'on peut devenir, à un moment ou à un autre, à l'instant T, on peut devenir sans doute un tueur en série.
Mais il y a peut-être des choses qui nous retiennent quand même dans notre vécu, dans notre éducation.
Oui, oui, oui. Ou c'est pas. Heureux d'ailleurs, c'est heureux.
Ou pas. Véronique essaie de se rassurer. C'est heureux.
Non mais oui, non, mais heureusement après on a une éducation, une tradition, puis on a un environnement qui est quand même favorable. Mais je sais pas, je pense qu'il faut vraiment peu pour...
pour basculer.
Ouais, du côté obscur, hein, ça me surprend, ça vraiment.
Alors
ça
si,
me
on surprend. Si on fait votre portrait, les polars... Les livres de cuisine, puisque vous nous avez parlé que vous aviez beaucoup de livres de cuisine, mais est-ce qu'il y a d'autres livres aussi? Alors si j'avais un seul livre, allez, vous partez sur une île déserte, vous en emportez qu'un, il serait lequel?
Ah, ça sera Shan Stevens, Au-delà du mal, le polar noir le plus sombre que je n'ai jamais lu. Pas sombre... On assiste à la naissance d'un tueur en série, justement. La naissance. Une mère célibataire, un fils qu'elle n'aime pas et qui elle fait payer certaines choses et elle le programme petit à petit. Et arrivé à l'âge adulte, il devient l'un des plus grands tueurs en série. J'ai eu l'occasion de lire.
Alors
voilà.
Si vous avez envie de retrouver régulièrement Jérôme avec ses idées de livres, je vous propose d'écouter régulièrement Couleur FM 97.1. Où vous allez pouvoir entendre une nouvelle chronique que nous allons lancer bientôt, qui sera la chronique Passion Lecture, et où Jérôme, nous l'avons invité à venir présenter justement les livres qu'il aime. Donc Franchement,
j'ai eu un grand plaisir à enregistrer ces séquences aussi.
Voilà,
partager,
passionné, il m'a donné envie de lire les livres qui me présentaient. Donc je vous invite à écouter ces chroniques et donc du coup vous aurez des idées lectures de thrillers et de plein d'autres choses bien évidemment.
Alors, vous êtes passionné aussi de cinéma, ça vous a pas donné envie effectivement aussi de lire des livres autour du cinéma?
J'ai lu finalement des livres, notamment Le Parfum de Susskind, je l'ai lu après avoir vu le film, que j'ai trouvé absolument fabuleux ce film, mais je lis rarement des livres sur le adaptable ou sur le cinéma ou autre. Non, c'est vraiment du coup la bande originale moi qui voilà.
Et c'est ça c'est assez amusant d'ailleurs, c'est que tous les grands lecteurs ont du mal soit à aller voir le film, soit à lire le livre selon ce qu'ils ont lu ou vu en premier.
Parce que c'est une adaptation, un film. Hein.
Oui,
c'est une adaptation tirée d'un livre, donc forcément, c'est perçu par la personne qui va la mettre en scène, et c'est pas forcément la façon dont nous, on se l'est mis en scène en le lisant.
Oui. On se fait tellement ces images. Il y a une série d'ailleurs qui est sortie il y a pas longtemps d'un de mes auteurs préférés, là, c'est Jussi Adler-Olsen. Ils ont fait les trois premiers en série, qui étaient en VOD, enfin téléchargé, c'est pas sorti au cinéma. Je m'étais fait une telle image de cet enquêteur, Karl Moss, incroyable. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est pas ça.
C'est décevant.
C'est pas ça. Ouais, c'est décevant. Enfin, je suis tellement dans l'imagerie, du coup, imaginez vraiment chaque, même les lieux, les endroits, les personnages, c'est fou, hein. Il y a néanmoins là, prochainement, il y a La Fille du Train, le fameux polar qui est sorti l'été dernier, qui sort au cinéma le mi-octobre. Les bandes annonces ont l'air, mais. Terrible. Du coup, les personnages sont correspondent à ce que j'avais imaginé. C'est drôle.
Et Jérôme Becker, c'est combien de livres lus par an?
Beaucoup.
250-300, non?
C'est-à-dire,
je pense. Ouais, 5-6 par mois,
quoi.
Oui. Enfin, oui. Non, 5-6 par mois. Mmh. Ah non, oui, plus que ça, oui. Oui, c'est. Pas, alors, ça va être un peu moins. Je suis très fort en calcul. On le remarque immédiatement.
5 par semaine, non?
Non, allez, on va retomber à 120.
120 par an?
Oui.
Ce qui est déjà une bonne idée. Ça fait 4 par semaine.
Oui. Oui, c'est plus raisonnable. Oui.
Alors, on va terminer cet entretien. On sait que vous êtes toujours au fait de l'actualité. Elle est riche en cette rentrée avec des sujets plus ou moins. Voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Il y a des choses, vous nous avez dit que vous écoutiez beaucoup l'actualité. Il y a des fois, on se passerait des côtés de l'actualité. Alors, beaucoup de sujets dont on pourrait débattre. Alors, Valérie avait un sujet de prédilection dont elle avait envie de vous parler.
C'est
ce qui l'a choquée, effectivement, dans l'actualité. Hein. C'est pas qu'elle aime ce sujet plus qu'un autre, mais c'est qu'effectivement, quand on tombe sur ce genre d'actualité, on se demande si on est toujours au 21e siècle ou si on n'a pas régressé au 17e ou au 16e siècle.
Alors, en fait, la question qu'on se posait, c'est la question de l'IVG, hein, puisque en Pologne, c'est en grande discussion, c'est un grand débat, et on en a entendu parler ces derniers jours. Et avec Jérôme, on en discutait tout à l'heure, et on se posait la question de l'IVG, comment est-ce qu'il est finalement interprété par les jeunes, et comment la société place l'acte de l'IVG, en fait. Parce que l'IVG, bien souvent, on va vous dire « oui, mais on prend ça comme un moyen de contraception ». Non, on ne prend pas ça comme un moyen de contraception. Mais est-ce que si certaines le prennent comme un moyen de contraception, est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'il y ait une mauvaise information ou une désinformation par rapport à ça? Donc voilà, ça tournait, notre discussion tournait autour de ça. Et puis, on est quand même dans une émission « tout feu, tout femme », comme son nom l'indique, et je pense que la femme a le droit
de disposer de son corps,
et que ce ne sont pas des hommes extrémistes d'où qu'ils viennent qui peuvent se permettre de nous imposer une vie et ce qu'on fait de notre corps. Voilà, c'était surtout ça, moi, qui me...
Et là, on faisait appel à l'homme.
Oui.
Voilà.
Pour le coup... c'est pas que j'ai zappé l'information, mais du coup je l'ai regardé de loin. J'ai aperçu ces femmes avec des t-shirts noirs en train de faire un footing, justement pour dénoncer les journées noires. J'aurais dû me pencher un petit peu plus sur l'histoire de la Pologne. Pour moi, la Pologne, c'est un pays extrêmement religieux, et ça pose encore, je pense, le véritable problème de fond, la religion et la distinction entre l'État et la religion. Et je ne sais pas d'où vient cette loi, d'où vient cette interdiction, enfin, visant à abolir le... ni léger.
On voit naître partout, même en France, hein, certains partis politiques qui se présentent aux élections présidentielles voudraient revenir sur certaines dispositions. Il y a des sites qui fleurissent un petit peu partout. Oui. On rentre sur ces sites, on pense que c'est un site gouvernemental et en fait c'est un site qui vous incite à justement à vous expliquer que ben, c'est un bébé, etc., qui vous pousse à ne plus pratiquer l'IVG. Donc on est vraiment dans des retours en arrière de société. Bientôt, on va nous interdire la contraception parce que là aussi, on est en train de tuer tous les mois.
Voilà. Et ce qui est grave, c'est qu'en plus, au niveau de la Pologne, l'interdiction, elle est surtout, c'est ce qui m'a le plus choqué, je pense, c'est que les femmes, même les femmes qui vont être victimes d'inceste et de viol ou d'enfants handicapés très fortement, n'auront plus le droit à l'avortement. Je veux dire, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'on va vous laisser féconder l'enfant d'un monstre qui a osé s'attaquer à vous. Et ce gosse, vous n'allez jamais l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer un enfant qui vous a été imposé. Enfin, je ne sais pas. C'est toute cette démarche
On poussera de nouveau à faire ce qui a été fait par le passé. Les femmes iront avorter à l'étranger.
Les faiseuses d'anges. Oui.
Et celles qui ont l'argent et celles qui n'ont pas l'argent. On va retomber sur des problématiques, je vous dis, qui sont dignes du XVIIIe siècle.
Mais c'est étrange au cœur de l'Europe hein, qu'un pays... En Italie aussi, il y avait eu une brèche.
Dans plusieurs pays, il y a eu des brèches qui s'ouvrent.
Et c'est marrant.
On peut faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement. Je pense qu'en fait, il y a un regain, à mon sens. Hein, alors, c'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne en tous les cas. Il y a un regain d'extrémisme religieux de tous bords et que bien souvent, c'est véhiculé par ces gens-là. Du moralisme à trois balles.
Ce qui est étonnant, c'est que.
La morale de quoi, je veux dire.
Ça se dit parler au nom de la femme aussi. Hein. C'est ça qui est exceptionnel quand même. Hein. Et alors qu'on est en train de priver les libertés de nombreuses femmes. Et c'est censé parler au nom de la femme, son intérêt, etc. Et...
Moi, je ne suis pas du tout féministe en plus. Hein. Ça n'a rien à voir non plus. C'est ce que ça, je tiens aussi quand même à apprécier. On n'a pas besoin d'être féministe pour être choqué par ça. Oui. Et c'est vrai que je pense, on en parlait tout à l'heure aussi, Jérôme, je pense aussi qu'il y a une chose qu'on a oubliée en France, notamment et certainement dans les autres pays, c'est ce qu'on avait pendant un moment donné, c'était l'éducation civique à l'école. Cette éducation civique, elle nous donnait des informations, elle nous inculquait un certain nombre de choses. On ne l'a plus. Bah ça, c'est par exemple quelque chose qu'on pourrait faire en instruction civique, expliquer aux jeunes filles pourquoi il vaut mieux ne pas passer par l'IVG et pourquoi il vaut mieux utiliser...
C'est fait.
Alors c'est que c'est mal fait.
C'est fait au niveau des collégiens.
Oui, mais
ça commence au collège.
Ça commence au collège, mais je pense que là, il faut se poser la question s'il ne faut pas le poursuivre en lycée.
Bah, collège, ça y est en collège, lycée. Le problème, c'est que dans nos sociétés, on n'écoute pas, on pense qu'on est plus malin. Et puis, pour certains, l'acte de l'IVG est passé à un acte comme n'importe quel autre acte. Puisque, comme tu le disais si bien, pour certains, c'est un moyen de contraception. Et là, on a un véritable problème. Il faut vraiment expliquer qu'il y a un traumatisme et c'est pas...
C'est comme ça qu'il faut s'interroger, en tous les cas, sur ce problème-là. Mais effectivement, on parlait de la désinformation aussi tout à l'heure.
Trop d'informations.
Qui sont des sites en fait extrémistes religieux, qui se font passer pour des sites du gouvernement et qui incitent les jeunes filles qui cherchent encore à savoir si elles vont pratiquer un IVG ou pas. Elles vont sur ce site en pensant qu'effectivement elles sont face à des gens qui vont leur expliquer les tenants et les aboutissants d'un IVG, et elles se trouvent face à des gens qui sont en fait des extrémistes religieux qui vont les pousser tout doucement à aller à ne pas faire l'IVG et supporter l'enfant dont initialement elle n'avait pas envie.
Alors Jérôme, pour continuer toujours sur la place des femmes dans la société, si on parle de femmes et littérature, est-ce qu'elles ont toute leur place aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent?
Énormément. C'est pas que je suis stupéfait. Si, je suis stupéfait. Pas que je pense que les femmes n'écrivent pas bien. Mais non, mais dans un salon ou autre, dans des rassemblements, c'est fou. Hein, c'est fou. Même le public, d'ailleurs, c'est surprenant. Le public est aussi très féminin. Très féminin dans le genre de lecture que j'ai, polar, thriller, etc. C'est 80% de femmes. Hein. Et encore, au bas mot. Mais non, la littérature féminine, là, tout son... D'ailleurs, ce sont les plus, entre guillemets, tordus, j'ai envie de dire. Les plus tordus, il y a des... parce qu'elles arrivent à développer des sentiments assez incroyables, je... C'est, elles me font plus peur, les écrivains féminines.
Et est-ce qu'elles sont plus justement dans ce genre de littérature ou on les retrouve un petit peu partout,
Les femmes partout. Partout, oui, partout.
Sur du roman.
Sur du roman, des essais, etc. On voit bien aussi ce qui se passe, les biographies, les choses comme ça, les livres politiques. Hein. Énormément de femmes écrivent de livres politiques. Hein. Sont confidentes, elles sont, c'est plus facile d'accès aussi, hein, je trouve, hein, pour retranscrire des bruits de couloir. Des...
Justement, pour faire un passage avec les élections présidentielle qui s'amorce. Là aussi, on s'aperçoit quand on voit dans les primaires, on a une femme qui est arrivée à avoir ce nombre de signatures.
Et encore, elle a ramé les terres.
Donc là aussi, on est loin de l'égalité femmes-hommes dans le milieu politique. Alors c'est et pourquoi on en est encore là? Est-ce qu'un monsieur peut nous dire pourquoi les femmes n'ont toujours pas leur place ?
Je comprends pas ce que vous dites, je comprends pas. Pourtant, il y a eu des lois de voter sur la parité, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on n'applique pas les lois ? J'aime bien faire le benet de temps en temps.
Peut-être que les femmes aussi ont plus de réserve que les hommes et ne se lancent pas dans la politique.
Là, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que je pense que les femmes qu'on a actuellement en politique, elles ont quand même une certaine verve et elles sont quand même bien rentrées dedans. Et pour autant, tout en ayant dit tout ce qu'elles avaient à dire dans les médias, parce que moi, j'en ai entendu un certain nombre qui vociféraient à juste titre contre et qui pestaient contre les paramètres bien précis qui avaient été mis dans les primaires d'un côté comme de l'autre. Ces femmes-là, elles se sont battues, hein, mais pour autant, les élus, parce qu'il faut appeler un chat, on a une majorité d'hommes qui sont élus, et cette majorité d'hommes au Parlement et au Sénat votent, ne donnent pas forcément leur signature. Parce que c'est
même
ça.
Les maires, puisque les maires sont majoritairement masculins. Hein,
donc le problème est plus là, c'est qu'on a quand même une majorité de maires et une majorité de parlementaires qui sont des hommes, et par conséquent, s'ils ont pas, ils sont quand même assez... Excusez-moi, messieurs, mais quand même, il y en a une bonne partie assez macho, et du coup, bah, ils ne donnent pas leur voix à ces femmes qui sont les pauvres, elles n'ont pas les épaules pour affronter une présidentielle.
Mais ce qui devient complètement compliqué, je trouve, c'est que sous le prétexte de la parité, on est des fois aussi c'est compliqué. On va donner la place à une femme plus qu'à un homme, non pas parce que c'est par ses qualités, parce que c'est de la femme. Discrimination positive, voilà, mais parce que c'est une femme. Et là, on marche un petit peu sur la tête aussi, quoi.
Ah oui, là, du coup, c'est la discrimination positive, oui, c'est vrai.
On se donne bonne conscience, comme dans beaucoup de choses dans notre société.
Et le fait d'alterner aussi sur une liste homme-femme, 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 mécaniquement, après, il y a toujours un moment où c'est l'homme qui passe devant.
De toute façon, surtout quand ils sont 15, le maire est souvent un homme. Combien il y a une mère homme et une mère femme.
Oui, c'est étonnant. Hein.
Voilà, c'est très étonnant.
On est tous au courant autour de la table.
Ouais.
On est, voilà. Je crois qu'on arrive au terme de cette émission. J'aurais une petite dernière question à Jérôme. À force de lire, ça ne vous est pas venu l'idée de dire tiens, et si j'écrivais ?
Et non, absolument pas. Oh, non, je crois que c'est entre guillemets, c'est réservé à une certaine entre guillemets élite. Je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas.
Et même pas écrire un livre de cuisine, tiens, par exemple.
Ah non, non. Ah non, on excelle dans chacun son job, vraiment. Il y en a qui le font très bien.
Là, c'est pareil, juste un dernier aparté, la cuisine. Souvent, on voit les femmes en cuisine chez elles. Et puis souvent, les chefs cuisiniers, ce sont des hommes.
Oui.
Là aussi.
Oui.
Comment définirait-on ça ?
Comment on peut...
Pourquoi les messieurs accèdent à des hautes fonctions et à des hautes institutions et qu'on laisse la cuisine familiale aux dames ?
D'organisation, je veux dire, un homme est organisé, quoi, ce qui n'est pas du tout. Non, je plaisante. J'ai pas de réponse à ça. Il y a de plus en plus de femmes chefs, non ? Chef de brigade.
Mais vous, citez-moi allez, un seul nom d'une cuisine, d'une personne qui
Sophie
est connue.
Pic.
Bon, ok. Une. Dans les hommes, il y en a un paquet, hein.
Ah ben, il n'y en a pas un qui vient,
connus.
Je suis de mauvaise
foi. C'est pour ça que je voulais relever votre mauvaise foi.
Je ne sais pas.
Voilà.
Bien joué.
On terminera sur cette note d'espoir. Bientôt, nous aurons que des chefs féminins et plus de chefs. Non, il ne faudrait pas arriver à ça.
Un mixte, c'est toujours très bien.
Un mixte, c'est toujours très bien.
Voilà.
Il y a des bonnes équipes. Mmh. Et puis, donc, je vous encourage à vous rendre quand vous habitez Bourgoin-Jallieu à la cantine littéraire que vous retrouvez entre le lycée Loiselet et l'école Simone Veil le jeudi à partir de 11h30. Et puis, vous pourrez déguster de très bons hamburgers ou alors des bagels. Et puis, on aurait peut-être pu trouver un nom français parce qu'hamburger, c'est pas tellement français. Et puis, des desserts. Alors, vous pourrez craquer sur des panna cotta. Enfin, je vais pas vous faire le menu. Et surtout, vous retrouvez toutes ces informations sur le Facebook de la cantine littéraire où il vous annonce régulièrement le menu, les endroits où on peut le trouver. Et puis, bah, si vous avez envie de vous réserver une soirée privée, bah, je vous laisse aussi prendre contact avec la cantine littéraire. Et puis, vous pourrez en même temps bouquiner. C'est le but aussi de ce food truck qui
très
circule
belle idée.
Un petit peu partout sur notre territoire. Au plaisir de vous revoir ici ou là.
Au revoir Jérôme.
Et puis, bonne
merci
continuation.
Merci beaucoup Véronique et Valérie
à
pour
bientôt.
Votre accueil. Merci beaucoup.
Et on termine en musique et c'est Jérôme qui nous présente sa dernière pause musicale.
Alors on va retrouver encore l'univers du cinéma avec Hans Zimmer. C'est le titre Now We Are Free avec la fabuleuse chanteuse des Dead Can Dance, Lisa Gerrard. La bande originale du film Gladiator.
Love me.